Souvenir de l'actrice Françoise Rosay, recueilli en 1949.
Mon premier souvenir, mon souvenir vraiment frappant, c'est la carte postale. Je me vois toute petite, à la hauteur de la table.
Née en 1891, elle était enfant au tournant du siècle.
Ma mère avait reçu une carte postale et l'administration des postes, pleine de goût à l'époque et pleine d'attention, avait fait dessiner sur cette carte une aube, un soleil naissant. Ça représentait l'année 1900. Ça m'a fait grande impression.
En 1900, sur les cartes de vœux, un soleil pâle se lève sur le XXe siècle. En 1900, Alfred Dreyfus vient d'être gracié. Mais il aspire plus que tout à réhabiliter son honneur bafoué. Et c'est la trame de ce nouvel épisode.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
Souvenez-vous, le 19 septembre 1899, Alfred Dreyfus jouit d'une grâce présidentielle accordée par Émile Loubet.
Il dormira chez lui ce soir, en âme libre.
La grâce, en droit français, c'est la suspension de la sanction pénale.
Mais on ne gracie que les coupables.
C'est-à-dire qu'après sa seconde condamnation, si Dreyfus retrouve bien sa liberté, il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de la loi, il reste coupable.
Vous avez peur de changer la société. Vous avez peur de porter la hache dans la pourriture du corps social.
Alors, comment Alfred Dreyfus a-t-il enfin obtenu sa réhabilitation? Et en quoi est-ce une grande victoire de la République? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. Huitième épisode, la réhabilitation du capitaine.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus ?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Ils représentaient la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
Pour une partie de l'opinion, l'opinion était divisée.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
La soupe, la plus belle conquête de l'homme.
Le récit débute à Carpentras, dans le Vaucluse, durant l'automne 1899. Dans la foulée du procès de Rennes, Alfred Dreyfus y a trouvé refuge pour se reposer et se requinquer auprès de sa famille après 5 ans de bagne. Pierre, son jeune fils, âgé de 9 ans, retrouve son père pour la première fois depuis 1894. Pierre Dreyfus, dans « Souvenir du capitaine Alfred Dreyfus », 1936.
Ah, voilà mon père.
Je vois encore nettement notre arrivée et maman nous accueillant. Ayant auprès d'elle un monsieur aux cheveux presque blancs, le visage ravagé, l'air très las, les vêtements flottant sur son corps amaigri, mais qui nous regardait avec une telle émotion que nous lui rendîmes ses baisers et l'acceptâmes de suite pour notre papa.
Après un an de convalescence au pied du Mont Ventoux et au milieu des champs de citronniers, Alfred Dreyfus s'est revigoré et se décide enfin à rentrer chez lui.
Allez, une.
Alfred Dreyfus dans ses carnets. J'arrivais à Paris le 25 novembre au matin. Que d'événements tragiques s'étaient passés, Depuis que j'avais quitté mon domicile pour ne plus le revoir, le 15 octobre 1894, afin de me rendre à la convocation au ministère de la guerre qui m'avait été adressée. Quel horrible drame j'avais vécu. Je revivais tout l'atroce cauchemar.
C'est ici, monsieur.
J'eus la joie profonde de faire la connaissance d'Émile Zola. Je fus charmé par sa simplicité.
Je vous en prie.
Ému par sa voix vibrante et chaude d'humanité, son cœur débordant de bonté.
Monsieur Dreyfus, je vous salue avec émotion. Et, si vous le permettez, avec amitié.
Je vous remercie, monsieur Zola.
Après 11 mois d'exil à Londres, Émile Zola a regagné Paris durant l'été 1899. Et les deux hommes se rencontrent pour la première fois le 1er décembre 1900, rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement, au domicile de l'écrivain. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de nourrir leur amitié. Le 29 septembre 1902, après son retour de Médan, près de Saint-Germain-en-Laye, là où il passe tous ses étés, Zola disparaît brutalement.
Il part, ce feu ?
La cheminée tire mal, monsieur. Les fumistes sont dans l'immeuble, justement.
Zola rentre de Médan ?
L'historien Philippe Auriol.
Et donc sa domesticité l'a précédé et en fait on prépare la chambre, on prépare le feu de cheminée, on prépare la nourriture, etc.
Bonsoir monsieur, bonsoir madame.
Bonsoir Jules.
Bonsoir Jules.
Et ce premier soir de retour à Paris, le couple va se coucher et la cheminée commence à refouler et ils vont perdre connaissance. Zola, lui, perd connaissance et tombe par terre. La fumée monte mais les oxydes de carbone descendent et donc Zola est mort.
Madame, monsieur,
ne touche rien. Appelez un docteur.
J'y vais tout de suite.
Ouvrez les fenêtres.
Madame.
Alfred Dreyfus dans ses carnets. Le 29 septembre, à 6 heures du soir, j'appris une terrifiante nouvelle. Zola était mort dans la journée, asphyxié par les émanations d'une cheminée fonctionnant mal. Et Madame Zola était en grand danger. Bouleversé par cet effroyable drame, je courus rue de Bruxelles.
Suivez-moi, monsieur.
Je le vis avec une indicible douleur, couché sur son lit, la figure reposée et calme comme s'il dormait. Mon émotion fut extrême en revoyant ce cher et noble ami, terrassé ainsi par un accident imbécile, en pleine vigueur, en plein travail. On connaissait de lui sa puissance de travail, son génie de romancier. On ne connaissait pas assez sa bonté de cœur, sa générosité.
Les obsèques de Zola ont lieu au cimetière de Montmartre. Et Alfred Dreyfus a beaucoup insisté auprès d'Anatole France pour que ce dernier écrive et prononce l'oraison funèbre.
Messieurs, appelé par les amis d'Émile Zola à parler sur cette tombe, j'apporterai d'abord l'hommage de leur respect et de leur douleur.
Oraison funèbre, prononcée par Anatole France lors des obsèques d'Émile Zola le 5 octobre 1902. Zola a bien mérité de la patrie en ne désespérant pas de la justice en France. Ne le plaignons pas d'avoir enduré et souffert.
D'avoir enduré et souffert.
Envions-le.
Envions-le.
Dressé sur le plus prodigieux amas d'outrages que la sottise, l'ignorance et la méchanceté aient jamais élevé, sa gloire atteint une hauteur inaccessible. Envions-le. Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre et par un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine.
Les circonstances étranges de la mort de Zola soulèvent de nombreuses interrogations parmi les Dreyfusards. Mais aussi bien du côté de la famille de l'écrivain que des autorités, on redoute de nouvelles polémiques.
Écoutez, commissaire Cornette, moins on parlera de cette affaire, mieux nous nous porterons.
Monsieur le préfet, Oui. Avant l'été, monsieur Zola est venu me voir. Il recevait beaucoup de lettres de menaces. J'ai apporté le dossier.
Pff, quelques lettres.
Des centaines, monsieur le préfet.
Et là, il y a une enquête qui est menée, et qui est une enquête qui est assez curieuse. C'est que plutôt que d'essayer de comprendre, en fait, si Zola a pu être assassiné, on essaye simplement de savoir si il a pu être asphyxié par sa cheminée. Donc on met trois canaris, partant sans doute du principe que la corpulence de Zola est équivalente à celle d'un canari, et on en fume pour voir. Et du coup, on détruit aussi les preuves possibles dans la cheminée, c'est-à-dire que l'enquête criminelle n'est pas menée. Et voilà. Et donc Zola est mort et on ne sait pas comment il est mort. Alors les anti-Dreyfusards ont rapidement une thèse, en fait, qui est ressortie là il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait il a été assassiné par les Juifs. Vous vous en doutez, non ? Syndicat de trahison et syndicat du crime. Pourquoi ? Parce qu'il savait des choses graves et qu'il risquait de... Voilà, ils sont fous. Et en revanche, là, aujourd'hui, on est quasi sûr. Maintenant, manque la preuve historique qui ? Mais là, on a un faisceau d'indices et de témoignages qui devient tellement puissant qu'en fait, on peut aller dans ce sens-là. Que, effectivement, Zola a été assassiné. Un fumiste, Buron Fosse, aurait... boucher la cheminée, en tout cas c'est lui qui le prétend.
Henri Buron Fosse, le probable assassin d'Émile Zola, avait 28 ans en 1902.
Un accident ? Mon œil que je te dis ! On lui a fait la peau à Zola !
Ouais, tais-toi, bois ton cou !
Hein. Une absinthe !
Personnage d'extrême droite, patriote, qui fait partie de la Ligue des Patriotes de Déroulède, mais qui n'est pas une ligue très dangereuse, à vrai dire. C'est pas la Ligue antisémitique de Guérin, c'est pas des nervis avec des omoplates de moutons qui essayent de tuer les gens, quoi. C'est des gens qui roulent les airs et qui chantent la Marseillaise et qui espèrent que l'Alsace et la Lorraine vont revenir. Voilà, ça s'arrête là. C'est un allumé, c'est un exalté d'extrême droite, certainement. Mais en tout cas, c'est pas un crime politique téléguidé, comme on a pu le lire quelquefois, qui serait, en fait, pensé par les grosses têtes de l'anti-dreyfusisme. Voilà, mais c'est quelqu'un qui pensait que, à lui tout seul, il allait régler les problèmes de la France, puisque un des problèmes de la France, c'était Zola.
Donc, il semble bien que Zola ait été assassiné par un exalté d'extrême droite qui aurait agi de son propre chef, c'est-à-dire sans commanditaire. Néanmoins, ajoutons qu'Henri Buron Fosse était sans doute influencé par les discours de l'Action française, revue créée en juin 1899, pour lutter contre cette république qui défendait la cause dreyfusarde.
Déclaration du comité de la revue de l'Action française, mars 1905. Français de naissance et de cœur, de raison et de volonté, je remplirai tous les devoirs d'un patriote conscient. Je m'engage à combattre tout régime républicain. La République en France est le règne de l'étranger. L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise les influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel.
L'Action française est d'abord une petite revue, comme il y en a à gauche, comme il y en a ailleurs dans l'avant-garde.
Pascal Horry, historien et académicien.
La revue de l'Action française, qui réunit des jeunes, pour l'essentiel, des jeunes intellectuels, mais qui n'aiment pas le terme à ce moment-là, des écrivains, entre journalistes, poètes. Charles Maurras est un poète en langue provençale. Ces jeunes qui se réunissent autour de la revue d'Action française en 1899, c'est un effet évidemment, Dreyfus, ce sont des anti-Dreyfusards, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des nationalistes. Ils ne sont pas encore monarchistes. C'est Charles Maurras qui va les conduire, pour la plupart, pas tous, mais jusqu'à la monarchie.
Vive Charles Maurras, ma mère, vive Charles Maurras, c'est notre maître et c'est un os, vive Charles Maurras.
Et vive le roi, à bas la République, et vive le roi, la gueuse on la pendra.
Il pose sur la table la nécessité du nationalisme, la nécessité d'un régime fort, donc un peu dans la continuité du boulangisme, hein, mais très original, à un moment où la question de la monarchie semble réglée. Hein, lui va mettre la monarchie sur la table en disant que c'est cohérent. Puisque l'on est nationaliste, on doit être aussi monarchiste.
Il faut rendre à la France un régime qui soit français. Notre unique avenir est dans la monarchie, telle que la personnifie Monseigneur le Duc d'Orléans, héritier des 43 qui, en 1000 ans, firent la France. Seule la monarchie assure le salut public, répondant de l'ordre, prévient les maux publics que l'antisémitisme et le nationalisme dénoncent. Organe nécessaire de tout intérêt général, la monarchie relève l'autorité, les libertés, la prospérité et l'honneur. Je m'associe à l'œuvre de la restauration monarchique, je m'engage à la servir par tous les moyens.
Aux origines de l'Action française se trouve entre autres Charles Maurras. Né à Martigues en 1868, qui est-il ? Les actualités françaises, 1945.
Né dans ces magnifiques Martigues où il revenait chaque année, que fut Maurras ? Une intelligence, mais une intelligence dévoyée. Un talent, mais un talent perverti.
Charles Maurras est fondamentalement un héritier de Frédéric Mistral, donc de ce qu'on appelle le félibrige, un réseau principalement d'écrivains, mais aussi éventuellement de musiciens, etc., provençaliste, ce qui explique qu'ensuite, dans la doctrine maurrassienne, alors que ça ne va pas forcément de soi, qui est donc une doctrine assez autoritaire, il y a le provincialisme et la décentralisation. Il faut savoir que le mot décentralisation, qui va être utilisé bien souvent jusqu'à aujourd'hui, c'est un terme qui est plutôt connoté extrême droite. Barrès n'arrête pas de parler de la décentralisation. Lui, qui est l'homme de Nancy, etc., en disant, vous voyez, à Paris, cette dictature parisienne, Maurras pense la même chose du point de vue provençaliste. Il est provincialiste parce qu'il est provençaliste. Et ça, c'est important. Évidemment, le félibrige sera très gêné par cet engagement. Une partie quand même des félibres, qu'on les appelle, suivront Maurras, mais en général, ils seront prudents. Frédéric Mistral sera très prudent. Il faut savoir que Frédéric Mistral est une autorité artistique et même intellectuel à la veille de la guerre de 14, puisqu'il sera prix Nobel de littérature. Et Maurras se situe dans cette ombre, ou dans cette lumière.
À Mayenne, un cortège se rend au cimetière.
113e anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral. Actualité française, 8 octobre 1943.
Sur la tombe du chantre de la Provence, Charles Maurras récite des vers, tandis que le neveu de Frédéric Mistral évoque le poète. Dans l'après-midi, devant la maison natale, au son des tambourins et des fifres, c'est par les danses et les chants des groupes de la jeunesse et des sociétés félibréennes que se termine cette journée à la gloire de celui qui a chanté toute la couleur, tout le soleil et toute l'âme de la Provence.
Au moment de la révision du procès Dreyfus, Maurice Barrès rejoint l'Action française.
La grâce ?
Et après la grâce présidentielle accordée à l'ex-capitaine, Barrès se défoule et crache son venin.
Maurice Barrès, dans « Ce que j'ai vu à Rennes », 1904. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Qu'il a trahi, je le sais, parce que j'ai là les pages de Mercier et de Roger qui sont de magnifiques travaux. Quant à ceux qui disent que Dreyfus n'est pas un traître, le tout c'est de s'entendre. Soit, ils ont raison. Dreyfus n'appartient pas à notre nation et dès lors, comment trahirait-il ? Les Juifs sont de la patrie où ils trouvent leur plus grand intérêt. Et par là, on peut dire qu'un Juif n'est jamais un traître.
Pour lutter contre la cause dreyfusarde, et plus encore, après la libération de Dreyfus, Maurras et Barrès aspirent à réformer intellectuellement le nationalisme avec l'espoir d'en faire une arme contre les valeurs de la République.
Le nationalisme français, dont le mot a été cultivé par Maurice Barrès lui-même, a eu besoin à ce moment-là d'une doctrine radicale qui a été l'Action française. Et on peut dire que sans avoir jamais été majoritaire au sein du nationalisme français, l'Action française a été une référence intellectuelle rassurante pour un certain nombre de nationalistes, en disant ben « nous avons aussi notre pensée, nos intellectuels ». Et c'est là qu'il y a une voix qui est peu entendue, celle de Ferdinand Buisson, qui est un personnage intéressant, qui a été l'un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, au moment de l'affaire Dreyfus, qui est un de ces protestants très nombreux qui ont été dreyfusards et militants radicaux ou radico-socialistes ou socialistes, qui sera président de la Ligue de l'enseignement et qui terminera prix Nobel de la paix dans l'entre-deux-guerres. Belle perspective. Et En 1902, il a prononcé une conférence qui est assez intéressante. Pourquoi nous, jeunes hommes de gauche, Dreyfusards, pourquoi nous sommes patriotes et pas nationalistes? C'est toute la difficulté d'ailleurs, parce que les nationalistes voudraient bien capter tout le patriotisme.
La patrie, cela a un sens, Séverine. Mais il est vrai que pour Zola, le patriotisme...
Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, paresse.
Patriotisme et nationalisme, deux mots qui parfois peuvent sembler signifier la même chose. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette comparaison sémantique au moment de l'affaire Dreyfus? L'historien Christophe Charles.
Alors, vous faites un parallèle entre les deux et les Dreyfusards refusent ce parallèle parce qu'ils disent c'est nous les vrais patriotes, parce que nous souhaitons que la France s'améliore, nous souhaitons que la France revienne sur ses erreurs et c'est par là que la France sera forte. Et si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de réformer l'armée pour qu'elle soit une bonne armée efficace et qu'elle n'ait pas à sa tête des gens incompétents, comme l'a montré en particulier l'affaire Dreyfus, nous allons rendre un mauvais service à l'armée. Donc pour les Dreyfusards, ils sont les bons patriotes. Ils disent que le nationalisme est une version fautive du patriotisme puisqu'elle ne participe pas à réformer, améliorer la nation, elle se contente de la prendre telle qu'elle est. Ce qu'il faut, c'est toujours garder l'esprit critique et réformer ce qu'il faut, sinon le régime va aller à la catastrophe.
À l'aube du XXe siècle, entouré des siens, Alfred Dreyfus a donc retrouvé sa liberté. Et très vite, il se replonge dans son dossier judiciaire. Il veut mener son combat jusqu'au bout.
Alors ce combat pour la réhabilitation, déjà, il faut présenter des faits nouveaux. C'est fondamental.
Vincent Duclair, historien.
S'il n'y a pas de faits nouveaux, s'il n'y a pas d'éléments qui permettent de revenir sur le verdict, eh bien, il n'y a pas de révision et donc Dreyfus restera condamné, même gracié. Et tout le travail du capitaine Dreyfus, avec ses avocats, eh bien, c'est de rechercher les faits nouveaux, donc d'analyser en fait toute l'affaire depuis l'arrivée du bordereau à la section de statistiques. Ça implique un travail très difficile jusqu'au moment où en fait Jean Jaurès, qui non seulement est ce leader socialiste que l'on connaît, qui a mobilisé les socialistes dans l'affaire Dreyfus, une partie des socialistes, qui a joué un rôle considérable, Jaurès qui connaît extrêmement bien le dossier, il a publié à l'été 1998 l'épreuve où il démontre que les bureaux de la guerre, comme il les appels sont des officines à faux documents contre Dreyfus. Découvre un fait nouveau.
En 1903, en effet, Jean Jaurès dénonce un nouveau faux document qui a pourtant été au cœur du procès de Rennes et qui a justifié, aux yeux de la justice militaire, la seconde condamnation de Dreyfus. Alors, de quoi s'agit-il ?
La légende, car c'est faux, mais la légende que l'empereur Guillaume II lui-même aurait annoté l'original du fameux bordereau, c'est-à-dire le document accompagnant le versement des pièces par Esterhazy. Bon, c'est absolument faux, mais en fait, la thèse du bordereau annoté, c'est pour dire que tout cela est d'une gravité telle qu'il fallait faire tout ce que l'état-major a fait pour éviter la guerre, puisque Guillaume II, en fait, s'était saisi de l'affaire.
Donc, la stratégie de l'état-major en 1894 aurait consisté à accabler le capitaine Dreyfus plutôt que l'empereur allemand Guillaume II, en prétendant ainsi éviter la guerre. Grotesque.
On est dans une reconstruction complète, mais justement, le bordereau annoté, comme le démontre Jaurès, a écrasé, au fond, les débats du procès de Rennes.
Oui, j'ai donné l'ordre qu'on remette au juge un dossier de preuve. Oui, c'était un document secret, et il devait l'être.
Il a sans arrêt été mentionné, suggéré, et donc il a vicié le travail de la justice militaire.
À Rennes, le verdict est tombé ! Alfred Dreyfus !
Coupable. Coupable !
L'opiniâtreté de Jaurès à défendre l'innocence du condamné a encore accentué son aura auprès des Dreyfusistes, parmi lesquels Henriette Psychary.
Jaurès, pour nous, c'était l'homme qui a, comme tout à l'heure, je vous ai dit que l'affaire Dreyfus avait ouvert la porte aux intellectuels, la porte de la générosité et de la vie civique. Je dis la même chose pour Jaurès. Jaurès a complètement transformé nos vues, nos désirs, nos ambitions. Ça, c'était un homme prodigieux. Prodigieux. Ah oui, on l'aimait.
Vive Jaurès ! Vive Jaurès !
Vive Jaurès ! Jaurès est persuadé que l'annotation de Guillaume II sur le bordereau est fausse. Il a raison. Et ce fait nouveau est au centre d'un argumentaire que Jean Jaurès déploie dans un discours mémorable à la Chambre des députés.
La parole est à Monsieur Jean Jaurès, député du Tarn.
Dès 1903, Jean Jaurès a pris la parole au Parlement pour dire non, la grâce, non, c'est insuffisant, il faut une révision du jugement.
Pascal Horry, historien et académicien.
Jaurès monte à la tribune et pendant presque 2 jours, il va argumenter. Et il finit par convaincre, bon, un gouvernement qui ne demandait pas mieux que d'être convaincu, mais il fallait entraîner la Chambre. Et la Cour de cassation va d'une certaine façon être obligée, sous la pression du Parlement, de l'opinion publique, etc., et des socialistes réunifiés, de reprendre le dossier et d'aboutir à cette solution qui est une cassation sans renvoi.
Dreyfus a été condamné illégalement, en violation des garanties essentielles dues à l'accusé.
Jaurès, par aussi son éloquence, par sa volonté de démontrer, emporte en fait l'adhésion du gouvernement et à partir de 1903, la Cour de cassation décide de juger sur le fond le verdict de Rennes.
Monsieur le juge.
En conséquence, pendant plusieurs mois, les juges de la Cour de cassation mènent un travail d'analyse d'une grande précision qui les conduit à une décision historique.
La Cour de cassation a constaté que, décidément, la justice militaire n'était pas capable de reconnaître l'innocence du capitaine Dreyfus, ce qu'on attendait en fait à Rennes. Parce qu'au fond, à Rennes, la Cour de cassation proposait à la justice militaire de reconnaître l'innocence. Et ça n'a pas été possible, à cause des pressions considérables sur la justice militaire. Donc là, effectivement, la Cour de cassation dit, bon, dans ces cas-là, comme la loi nous l'autorise, nous cassons sans renvoi. C'est-à-dire que l'arrêt est définitif, Dreyfus est innocent, totalement innocent, et il a été condamné à tort. À tort, donc ça veut dire effectivement qu'il y a quand même une intention criminelle, mais les réquisitoires en particulier du procureur général à plusieurs reprises établissent les responsabilités des coupables. La justice se prononce sur la culpabilité de ceux qui ont fabriqué la machination ayant effectivement amené le martyr de Dreyfus.
Le 12 juillet 1906, les juges cassent l'arrêt du Conseil de guerre de Rennes et réhabilitent le capitaine Dreyfus sans le renvoyer devant un troisième tribunal militaire. Dreyfus est reconnu innocent.
Déclaration d'Alfred Dreyfus dans le journal Le Temps, le 13 juillet 1906. La France a souffert les 1000 déchirements que la susceptibilité patriotique et l'ardeur pour la justice lui ont infligés. Elle a victorieusement subi cette épreuve qui l'impose au respect de l'univers civilisé. Je n'ajoute qu'un mot, et c'est à l'adresse de ceux qui ont défendu la vérité et un innocent. Merci.
Oh les fripouilles ! Oh les misérables !
Qu'y a-t-il encore ?
Ils ont cassé l'arrêt du Conseil de guerre. Voilà, Dreyfus est réhabilité. Un comble.
Encore ce Dreyfus.
J'entends parler du capitaine Dreyfus. Qu'a-t-il encore fait, le malheureux ?
Il a fait casser le jugement de Rennes. Voilà ce qu'il a fait.
N'est-ce pas naturel ? Puisque le Conseil de guerre s'était trompé.
Trompé ? C'est à voir.
Cette décision honore la République. Néanmoins, les autorités demeurent silencieuses face aux violentes contestations des nationalistes à l'encontre de cette réhabilitation du capitaine Dreyfus.
l'arrêt de 1906 est rendu au nom du peuple français. Lorsque il y a des contestations publiques d'un arrêt de justice, la puissance publique se met de poursuivre les auteurs de ces actes. Or, elle ne le fait pas. Et Dreyfus se retrouve tout seul à défendre la vérité. Et c'est Dreyfus lui-même qui sera obligé de faire condamner des journaux attaquant l'arrêt, en particulier le journal Action Française de l'Action Française. Et on voit effectivement là comment les choses se referment. C'est-à-dire que la vérité sur l'affaire Dreyfus, la vérité sur Dreyfus, c'est finalement que la vérité de Dreyfus, que la vérité des Juifs.
Diffamé par les nationalistes et abandonné par la puissance publique, la solitude dans laquelle Dreyfus se défend pourrait laisser penser que la vérité qu'il martèle est suspecte.
Je le jure, je suis innocent.
Or, redisons-le, Alfred Dreyfus a été victime d'une machination judiciaire, un crime orchestré par des officiers complotistes. Néanmoins, Alfred Dreyfus est réintégré dans l'armée le 13 juillet 1906. Et une semaine plus tard, la République répare son erreur.
L'un des hommages que la République veut accorder à Dreyfus après sa pleine réhabilitation judiciaire, c'est l'honneur que représente une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur comme chevalier. Il faut préciser que, en tant que capitaine, officier d'état-major, Dreyfus méritait la Légion d'honneur de manière automatique. C'est un honneur qui n'en est pas un, mais les Dreyfusards, au gouvernement, proposent à Dreyfus d'être décoré dans la grande cour de l'école militaire, là où précisément il a été dégradé donc le 5 janvier 1895. Bon, c'est certain que là, il y a une réparation assez forte qui aurait pu effectivement se réaliser. Et Dreyfus refuse, craignant effectivement de ne pas avoir la force psychologique de résister, parce que il faut se souvenir que la dégradation a été d'une violence inouïe. Et ce n'est pas effectivement le fait que Dreyfus est faible, c'est simplement que ce qu'il a subi était inhumain.
Alfred Dreyfus, dans ses carnets, 1899-1907.
À mon commandement, garde à vous!
L'aspect des murailles grises et vétustes du cadre de la cour des jardins était resté le même depuis le temps où j'étais lieutenant aux batteries à cheval à l'école militaire.
Chef d'escadron Dreyfus, rejoignez votre emplacement!
On ne choisit point pour cet acte de réparation le cadre qui est à côté. La grande cour de l'école militaire où s'accomplit 12 ans auparavant l'atroce première parade. Ce fut sur ma demande, car je craignais que l'émotion des souvenirs ne m'imposât une charge au-dessus de mes forces et ne triomphât de mon courage.
Ouvrez le banc !
À 2h05, retentit la sonnerie des trompettes. Le général Gillin, commandant la première division de cavalerie, d'allure martiale, la moustache blanche, pénétra à pied dans la cour, à grands pas. Il passa sur le front des troupes. Le silence pesa, lourd, impressionnant. Et dans le silence, ma pensée s'enfuit, éperdue, réveillant les souvenirs endormis d'il y a 12 ans.
Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes. Au nom du peuple français, nous vous dégradons.
Les hurlements de la foule, l'atroce cérémonie, mes galons arrachés injustement.
On déshonore un innocent !
Mon sabre brisé et gisant à mes pieds en tronçons épars. Mon cœur battit à se rompre, le sang afflua aux tempes, la sueur couvrit mon front. Je dus faire un immense effort de volonté pour me ressaisir et ne pas crier mes douleurs passées. Le commandant m'arracha à ma douloureuse rêverie et me ramena à la réalité réparatrice. Cette fois, le général Gillin prononça les paroles réglementaires d'une voix émue.
Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Et en m'agrafant l'insigne de l'honneur, il me dit d'une voix douce : Commandant Dreyfus, je suis heureux d'être chargé de vous décorer. Puis il m'embrassa de tout cœur et ses yeux se mouillèrent.
Décoré, rejoignez les rangs.
Aussitôt on m'entoura en criant « Vive Dreyfus !»« Non !» m'écriai-je. « Vive la République !»« Vive la vérité !» Puis mon fils se jeta dans mes bras. Ensuite ce fut le tour de ma femme, des miens. Étreinte délicieuse de tous ceux que j'aimais, pour qui j'avais eu le courage de vivre. Ce fut une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée.
Ne bougez plus, s'il vous plaît. Merci.
Cette cérémonie donc, se déroule dans la petite cour de l'école militaire, en présence quand même d'un certain nombre de personnalités, dont le général Picard, qui va devenir ministre de la guerre dans le gouvernement Clémenceau. Et lorsqu'on acclame Dreyfus, il dit non, vive la France, vive la République. Il est serein, on le voit, il y a des photos de lui, heureux. C'est vrai qu'il sourit, il a la croix de la Légion d'honneur sur le buste, mais ça ne répare pas du tout, effectivement, la dernière injustice, qui est celle de sa réintégration amputée dans les armées.
Amputée, c'est-à-dire qu'il n'est pas réintégré au grade qu'il aurait dû.
Oui, puisqu'à partir du moment où il a été totalement innocent pendant toute la durée de sa déportation, eh bien, toutes ces années-là sont des années de service actif qui, lorsqu'on reconstitue la carrière, devaient l'amener à être presque nommé lieutenant-colonel et non pas commandant, chef de bataillon, sans ancienneté. Il y a une thèse aussi qui souligne que ça a été fait à dessein pour obliger Dreyfus à démissionner, car il était hors de question que Dreyfus, même innocent, eh bien, demeure dans l'armée. Et cette thèse, moi, me paraît effectivement assez fondée, dans la mesure où, il y a une comparaison très nette, la loi du 13 juillet, donc le lendemain du 12 juillet, c'est la loi du Parlement qui réintègre Dreyfus et le colonel Picard, qui lui aussi a été chassé de l'armée, comme on le sait. Donc, il les réintègre dans le corps actif. Picard, lui, bénéficie d'une reconstitution parfaite de carrière. Il peut effectivement être nommé général de brigade par le gouvernement, tandis que Dreyfus ne bénéficie pas de cette reconstitution complète. Et donc là, il y a clairement une injustice, et de mon point de vue, une injustice volontaire.
Ma promotion au rang de commandant ne tient pas compte de mes années d'emprisonnement abusif. Je trouve que c'est injuste. Qu'en fait, c'est du parti pris.
Et que voudriez-vous que je fasse à ce propos ?
Me promouvoir au rang que j'aurais dû avoir. Lieutenant-colonel.
Je regrette Dreyfus. Ce n'est pas faisable.
Donc Dreyfus, ne pouvant tolérer d'être à un rang inférieur par rapport à ses camarades qui, avant l'affaire, étaient officiers d'état-major, au fond, la carrière de Dreyfus est brisée. Lui, effectivement, visait d'être officier général. Il le pouvait grâce à ses mérites. Et donc, compte tenu de cette situation, eh bien, il préfère donner sa démission un an plus tard, hein, en juin 1907.
Mais puisqu'on l'avait déjà amnistié, que voulait-il de plus ?
Je pense qu'il en a fait une affaire d'honneur, tout simplement. Et je dois dire que je le comprends.
D'honneur ? Comme si les Juifs pouvaient avoir la moindre idée de ce qu'est l'honneur militaire.
Récapitulons. Le 12 juillet 1906... Alfred Dreyfus est enfin réhabilité par la justice. Dans la foulée, la République le décore de la Légion d'honneur dans la petite cour de l'école militaire.
Décoré, rejoignez les rangs.
Mais il n'est pas réintégré au grade militaire qui aurait dû être le sien. Déçu et exaspéré, le commandant Dreyfus démissionne de l'armée quelques mois plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue symbolique sur cette réhabilitation du capitaine ?
On peut dire que l'histoire finit bien. On peut dire que l'erreur, effectivement, d'une certaine manière, est réparée et que mieux vaut tard que jamais.
Arnaud Hout, historien.
Il ne faut jamais oublier que la République a condamné Dreyfus deux fois. C'est quand même beaucoup. Mais effectivement, elle l'a réhabilité. Alors, cette réhabilitation, en même temps, elle n'a pas la même valeur symbolique dans l'immédiat. Hein. C'est important, la réhabilitation de 1906, bien sûr, mais d'une certaine manière, la fête est gâchée. Et notamment, quand deux ans plus tard, on va essayer justement de réparer l'erreur en amenant Zola au Panthéon. Zola, qui est mort en 1902, voilà, victime de l'affaire Dreyfus. La panthéonisation d'Émile Zola, d'une certaine manière, c'est une occasion ratée. Pourquoi ? Parce que Clémenceau, qui est chef du gouvernement, a peur que ça ne provoque des troubles sociaux, donc déjà on le fait un jour de semaine, histoire d'éviter qu'il y ait trop d'ouvriers dans les rues. Ensuite, parce que l'extrême droite est hyper mobilisée, et donc il faut un faux cortège pour éviter les incidents. Enfin, c'est dramatique. Et pire que tout, à la fin, il y a Dreyfus qui se fait tirer dessus par un militant d'extrême droite qui utilise une arme à feu. Donc, ça dit bien que rien n'est tout à fait terminé.
Voilà ce qu'a fait Zola. Il a affronté son temps, son pays, le gouvernement, pour la justice et la vérité. Et voilà pourquoi le gouvernement vous demande de déposer ses cendres dans le Panthéon sur les portes duquel vous lisez « Aux grands hommes ». On pourrait ajouter « Aux braves citoyens, la patrie reconnaissante ».
Le 4 juin 1908, les cendres de Zola sont en effet transférées au Panthéon. Une décision prise dès l'été 1906, au même moment que la réhabilitation de Dreyfus. Un symbole fort.
Ça n'a pas été simple, la panthéonisation de Zola. Alors, ce qui est drôle, c'est que juste après la réhabilitation de Dreyfus, le vote en 1906, la panthéonisation est proposée. Et elle est votée dans la foulée. Personne n'a réfléchi, en fait. On est dans l'enthousiasme du moment.
Philippe Auriol.
Et puis après, ça va devenir très très compliqué, parce qu'effectivement, la droite et l'extrême droite n'en veulent pas pour plein de raisons. L'auteur de J'accuse, parfois, mais aussi le pornographe. Et puis surtout, l'auteur de la débâcle qui entre au Panthéon. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Quand on pense au maréchal Lannes ou aux gens qui y sont, c'est absolument impossible, quoi.
Messieurs, on nous demande 35 000 francs pour porter Zola au Panthéon. Je crois que nous n'aurons jamais une meilleure occasion de faire des économies.
Et ça va traîner. Tout le monde essaye de ralentir tout ça. Et puis après, Clémenceau passe au pouvoir. Et quand Clémenceau passe au pouvoir, tout change. Parce que quand Clémenceau a décidé quelque chose, la chose a lieu. Et donc, la signification, elle est forte. Elle est aux grands hommes, la patrie reconnaissante, déjà. La première signification est là. S'il y en a un qui a bien sa place là-bas, c'est Zola. Et à double titre. Même si, peut-être que dans l'esprit du vote, dès le départ de 1906, c'est avant tout l'auteur de J'accuse qui se retrouve au Panthéon. Mais bien évidemment que ce n'est pas que lui. C'est aussi le grand écrivain qu'il est et qui a jamais marqué l'histoire de la littérature française. Enfin, c'est quelque chose d'absolument indéniable. Donc ça a une portée. Et puis c'est aussi la victoire du dreyfusisme et aussi le triomphe de la République, finalement. Parce que s'il y a bien une grande figure républicaine, c'est celle de Zola aussi.
La foule commence à manifester. On échange des horions. La police intervient avec vigueur et la voici qui arrête une centaine de perturbateurs. Il est exactement 9h30 et voici en landau découvert M. Armand Fallière, président de la République, qui accompagne M. Clémenceau, président du Conseil.
Et donc ce jour-là, il y a ce petit bonhomme qui s'appelle Grégory, qui est un personnage intéressant parce qu'il est syndic de la presse militaire, c'est un journaliste nationaliste, antisémite, très ami avec Drumont, c'est celui qui a financé l'édition de la France juive illustrée, c'est lui qui l'a payé de sa poche. Voilà, donc c'est quelqu'un d'important dans ce milieu-là. Et en fait, à partir du moment où il est là pour ça, d'ailleurs, puisqu'il y a eu préméditation, il s'approche de Dreyfus et il sort son arme et tire 2 balles sur Dreyfus. Dreyfus se protège et une balle pénétrera son bras.
Qu'est-ce que c'est ? On a tiré ? Sur qui ? Encore ! C'est là-bas, de l'autre côté du catafalque, que la chose s'est produite. Je vais essayer de me frayer un passage à travers la foule. Pardon ? Dites-moi, monsieur, dites-moi, sur qui a-t-on tiré ?
Sur le commandant Dreyfus.
J'aperçois monsieur Mathieu Dreyfus qui tient un homme à bras le corps.
Mathieu est là, comme d'habitude, puisque Mathieu est toujours là, le frère, et Mathieu ceinture le bonhomme. Il confie le bonhomme à la police qui le confie à la justice.
Je me nomme Grégory, je suis rédacteur à la presse militaire. C'est comme syndic et probablement comme doyen de la presse militaire française que j'ai voulu venger l'injure que le gouvernement infligeait à l'armée en la faisant assister à la cérémonie en l'honneur de Zola, l'auteur de la débâcle. Un point, c'est tout.
Et 2 mois après, a lieu le procès Grégory qui s'inscrit dans un moment où l'Action française, depuis qu'elle s'est dotée d'un quotidien en 1908, a pris vraiment une grande force et mène une campagne effrénée contre la réhabilitation du traître qui a eu lieu 2 ans avant. Ils ont commencé à ce moment-là. Après, contre le gouvernement Clémenceau et puis aussi le fait, quelle insulte, que Clémenceau ait choisi de nommer comme ministre de la guerre le général, maintenant, Picard. Donc c'est vraiment le gouvernement de Dreyfusard, voilà. Et donc a lieu le procès Grégory dans cette ambiance assez terrible, avec une Action française qui s'est dotée des camelots du roi, etc., etc. Donc vraiment très active dans les rues et dans les universités.
Veuillez venir à la barre, s'il vous plaît.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'ouverture de son procès, Grégory prend la parole en disant qu'il ne veut pas être jugé pour avoir tiré sur Dreyfus, mais qu'il veut être jugé pour avoir tiré sur le symbole que le représente Dreyfus. Et donc il faut que messieurs, puisqu'à l'époque il n'y a pas de dames, du jury, soient conscients d'une chose, c'est que si jamais il le condamne, lui, Grégory, il confirme le bien fondé de la réhabilitation de Dreyfus. Mais qu'en revanche, s'il l'acquitte, lui, Grégory, eh ben, il montre à la nation entière que le juif demeure traître. Et Grégory sera acquitté par le jury populaire des Assises de la Seine à l'unanimité. Et à la troisième question posée qui est « Le prévenu Grégory a-t-il tiré sur la victime Dreyfus qui a une balle dans le bras ?» La réponse unanime du jury populaire des Assises de la Seine est non.
Étourdissant.
C'est étourdissant. Incroyable. Ça prouve que les choses n'étaient pas complètement réglées. Maintenant, ce qui est intéressant, justement, par rapport à l'Action française, c'est... Enfin, moi, j'aime beaucoup la citer, celle-là, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, et elle a de l'écho aujourd'hui. C'est que, deux jours après la réhabilitation, Charles Maurras, écrit à Maurice Barrès, « N'est-ce pas que nous avions raison ? Abat les Juifs, abat les Juifs, nous allons la réviser, n'est-ce pas ? Cette histoire était et est vitale pour nous. »
Et comme le dit Maurras, il faut tromper ses chefs, ses amis... Ses collègues, ses concitoyens. Quand c'est pour le bien et l'honneur de tous.
Et donc on n'oublie pas que quand Maurras sera condamné pour collaborationnisme, la seule chose qu'il trouvera à dire à l'énoncé du verdict de condamnation, c'est la revanche de Dreyfus.
Malgré les menaces de Charles Maurras, malgré la haine des nationalistes à l'égard des valeurs de la République, il n'en demeure pas moins. Qu'entre 1898 et 1906, l'affaire Dreyfus fut une expérience de la citoyenneté pour beaucoup de Français.
Les Français qui assistent à l'affaire Dreyfus ont été invités de part et d'autre finalement à y prendre part.
Marie Aignier, historienne.
Et du côté des Dreyfusards, on les a invités à être des citoyens actifs, responsables, c'est-à-dire, en premier lieu, à avoir un esprit critique, à se faire leur propre opinion sur l'affaire et à ne pas céder aux rumeurs ou à tout ce qu'ils pouvaient lire dans la presse, à se forger leur propre esprit critique. Et puis, deuxièmement, on leur a aussi demandé d'aller plus loin, de convaincre dans leur entourage, de faire circuler les pétitions, de faire circuler des brochures. Et on leur demande aussi d'être des intermédiaires de cette parole intellectuelle dans leur commune, dans leur région. Et donc de s'investir activement pour répandre la justice et la vérité. Et puis on leur demande aussi d'être vigilants, en quelque sorte, face aux dérives du pouvoir. Mais par exemple, après l'arrêt de la Cour de cassation, au moment où donc l'arrêt doit être affiché dans toutes les communes de France... Les journaux invitent leurs lecteurs à s'assurer que l'arrêt a bien été publié. Et donc, on trouve dans quelques archives départementales des lettres de citoyens qui s'inquiètent que l'arrêt n'a pas été publié correctement. Et dans les Landes, j'avais trouvé un paysan qui a écrit à la préfecture pour dire que ça n'a pas été affiché et qu'il parle au nom des gens intelligents. Et le maire, interrogé par la préfecture sur l'absence d'affiche, répond « Je ne savais pas qu'il y avait des intellectuels dans ma commune. » Mais voilà, donc on les invite peut-être pas à être des intellectuels, mais effectivement à être des citoyens alertes, intelligents, actifs.
Par ailleurs, l'épilogue de cette affaire Dreyfus a influencé une partie des socialistes français.
La gauche va intégrer avec l'affaire Dreyfus l'idée que les valeurs de liberté et la République sont à défendre.
Arnaud Hout.
C'est ce qu'on appelle parfois la synthèse Jean Jaurès, parce que Jean Jaurès, qui est l'un des acteurs de cette histoire, il est celui qui, au fond, va expliquer à ses camarades socialistes que défendre Dreyfus, c'est pas du tout défendre un officier bourgeois. C'est défendre des principes qui rendent possible, à l'étape suivante, l'avènement du socialisme.
Dreyfus a été condamné illégalement. S'il est innocent, il n'est plus qu'un homme dépouillé de tout caractère de classe par l'excès même du malheur. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de la misère et du désespoir.
Donc c'est la mise en place d'une convergence, d'un discours convergent finalement, entre « on défend la République parce que c'est le meilleur moyen de faire venir le socialisme ». Et donc ça crée tout un discours de gauche qui va être, oui, effectivement, structurant des valeurs... politique, philosophique de la gauche française pour le siècle à venir.
Et enfin, cette réhabilitation du capitaine a permis d'asseoir le régime républicain.
Alors, elle a permis la modernisation de la République.
Perrine Simon-Naoum, historienne.
D'abord, elle a assis la République, qui, encore une fois, était à la fois une jeune République, installée depuis peu de temps, 1873, même 1879, on pourrait dire. Elle l'a confortée sur ses bases et elle l'a en même temps modernisée. À savoir que dans la suite de l'affaire, ou au milieu de l'affaire, puisque l'affaire finit en 1906, on a voté la loi sur les associations, loi 1901. On a voté la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1905. On peut dire que notre héritage républicain vient de l'affaire Dreyfus. Le deuxième enseignement qu'on doit en tirer, c'est que la République est fragile. Elle combat à la fois à travers des individus exceptionnels, on l'a évoqué, Alfred Dreyfus, Bernard Lazare, mais aussi à travers ses institutions. Et que ce sont ces institutions que nous avons intérêt à conforter si nous voulons rester en République et si nous voulons finalement rendre le monde partageable.
Alfred Dreyfus, dans ses carnets, 1907. Mes amis ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dont le monde ait été témoin. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale.
Ce combat d'Alfred Dreyfus pour laver son honneur face aux complotistes fut animé par une forte conviction ancrée en lui.
Il y a une foi républicaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus comprendre parce qu'on vit en République depuis très longtemps. Mais il ne faut pas oublier que pour Dreyfus, pour les hommes de sa génération, la République, c'était une possibilité parmi d'autres. Ils sont nés sous l'Empire. Ils ont vu partout en Europe des monarchies. Donc être en République, à l'époque, ce n'est pas juste un cadre juridique, c'est une vraie originalité. Et ça, c'est important à garder en tête parce qu'il y a une conscience que être en République, ça fait partie de votre identité sociale, politique. Donc ça forme des républicains peut-être plus authentiquement convaincus et peut-être parfois naïfs aussi, parce que beaucoup ont tendance à croire que la République ne peut pas condamner un innocent. Beaucoup croient justement que la République est forcément un bon régime et donc ça contribue aussi à fixer des erreurs judiciaires.
En conclusion de ce huitième épisode, retenez d'abord que la réhabilitation du capitaine, c'est la victoire de la République contre les nationalistes. Et reconnaître l'innocence de Dreyfus, c'était affirmer des valeurs de liberté, de justice et de solidarité sociale. Un héritage républicain qui demeure encore le nôtre. 1906, c'est donc l'épilogue de l'affaire Dreyfus. C'est la fin d'un cauchemar judiciaire et la fin d'une querelle française. Et on pourrait penser que l'histoire s'arrête là.
Mathieu Dreyfus, L'affaire telle que je l'ai vécue, édité en 1978. Après l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1906, qui cassait le jugement de Rennes et proclamait l'innocence de mon frère, je pensais n'avoir plus à écrire.
Mais l'histoire continue, et Alfred Dreyfus n'en a pas fini avec l'histoire de France.
Mais la guerre fut déclarée en août 1914 et le cataclysme mondial commençait.
Comment le commandant Dreyfus réintègre l'armée française pour participer à la Première Guerre mondiale, c'est inouï et c'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Clotilde Debézère et Éric Ruff, sociétaire de la Comédie française. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. prochain épisode, le patriote contre les nationalistes. Alfred Dreyfus, le combat de la République, est un podcast original de France Inter.